Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Sylvain Laurent, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir à l'antenne de l'Union rationaliste pour plusieurs raisons. Vous avez été membre de l'Union rationaliste, vous avez été pour un temps assez court, 6 mois environ, mais prometteur et dynamisant administrateur de l'association. Et surtout, vous venez de publier aux éditions de l'EHESS, école dans laquelle vous êtes maître de conférences en sociologie, un ouvrage dont nous ne pouvons pas ne pas rendre compte ici à l'antenne de l'Union rationaliste, puisqu'il s'agit dans cet ouvrage très largement d'une histoire de notre association, l'Union rationaliste. Votre ouvrage s'intitule « Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France, 1930-2005 ». Et vous y faites majoritairement l'histoire de l'Union rationaliste et de la FIS. Pas de meilleure occasion donc pour les auditeurs de France Culture de faire un point sur qui nous sommes et de les inviter à nous rejoindre à l'heure où il se passe des choses dans notre association. Un CA largement renouvelé, un nouveau président, Antoine Triller, médecin et biologiste, un nouveau bureau. En même temps, pour rendre compte de ce livre, il me semble qu'il y a une difficulté spécifique qui sera celle de cette émission, car à l'UR, nous sommes des militants rationalistes avec toute la chaleur et les prises de position que cet engagement militant signifie. Et votre travail, d'une certaine façon, nous objective froidement, nous réifie. Alors, comment faire avec cette difficulté qui est celle même de l'entreprise sociologique, des mouvements sociaux et des groupes d'intérêt ou de la socio-histoire. Nous sommes dans ce livre souvent réduits soit à notre trajectoire politique, soit à des appartenances familiales. Comment faire avec ça ?
Tout d'abord, merci pour cette invitation. En fait, je ne suis pas du tout, au départ, un historien des sciences ou un sociologue des sciences. En fait, je suis venu à la question du rationalisme à la suite de mon travail sur le lobbying à Bruxelles, notamment parce que de plus en plus de firmes investissent au niveau européen les milieux de la médiation scientifique. Et puis bon, après, bon, au fil des choses et au fil de l'enquête, je me suis intéressé à l'histoire de l'UR. Et puis mon goût pour la philo, voilà, j'aime beaucoup la philosophie rationaliste, notamment Jacques Bouvresse. Et puis le rapport assez positif que je pense que j'ai à l'école, enfin tout un tas de choses font que j'ai fini par me dire aussi que cette objectivation sociologique, ce côté froid que vous évoquez, en fait, pourrait être compensé éventuellement par le fait que j'adhère à l'UR. Et que finalement, ce travail ne se situe pas à l'extérieur de cette filiation, de cette histoire militante. Mais effectivement, après, le travail final, le livre, lui, ben, après, il mobilise des méthodes qui peuvent être froides, hein, donc des archives, des entretiens, tout un tas de trajectoires familiales et biographiques. Alors, je sais pas si ça réifie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, dès qu'on fait des sciences sociales, ça produit des effets de distanciation, des effets d'objectivation. Mais bon, après, par rapport à ça, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire. La première, c'est que déjà, c'est pas un travail qui clôt le débat, donc y compris du point de vue historique ou sociologique, des gens pourraient venir derrière et critiquer ce que je dis, critiquer des interprétations, trouver que sur certaines trajectoires j'exagère ou que mes interprétations ne sont pas les bonnes en mobilisant d'autres archives.
D'ailleurs, il est prévu à l'Union rationaliste un débat autour de votre ouvrage dès le mois de septembre prochain.
Voilà, donc j'imagine bien que des gens vont s'en saisir et puis en discuter. Et puis ça, c'est le jeu. Donc là-dessus, c'est pas du tout la fin d'une histoire. Et puis quand on fait de l'histoire, on est habitué à ce genre de critiques. Et puis il y a une autre chose aussi qui est derrière cette idée de froideur ou de réification, c'est la question de la détermination. C'est-à-dire, moi, je suis là-dessus, je reste assez proche de la phrase de Bourdieu qui disait que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de devenir libres, en ayant pris conscience justement de nos déterminations. Alors, pour quelqu'un qui se dit rationaliste, il me semble que là, quand même, c'est une position plus raisonnable que de considérer que nos engagements politiques ou notre ferveur pour telle ou telle idée serait pas du tout déterminée par tout un tas de choses, et notamment par l'héritage familial. Alors, surtout quand il est question des militants rationalistes, là, quand on lit dans les archives à quel point les individus sont rattrapés, souvent par leur héritage familial, qu'on voit à quel point être lié familialement à la famille Kahn ou même Langevin, par exemple, ce n'est pas neutre et ça fait que tout un tas de gens vont avoir des attentes à votre égard, qu'on fait l'histoire de ce type de mouvement-là, on est obligé de rendre compte de ces faits et je pense que là, n'importe quel militant rationaliste peut trouver l'idée tout à fait acceptable et tout à fait raisonnable.
Tout à fait d'accord. Il y a de la rationalité à dire que nous sommes à la fois déterminés et libres. Fabienne Bock, dans le numéro 200 de Raison Présente, auquel je renvoie, consacre un bel article au début de l'Union rationaliste de 1930 à 1940 et raconte cette fondation de l'UR autour d'Albert Bayet, d'Henri Roger, de David Jaya et de Paul Langevin. Autant d'hommes qui se connaissent déjà, des associations nées de la suite de l'affaire Dreyfus, Ligue des droits de l'homme, Ligue de l'enseignement, Association de libres penseurs. Pourriez-vous, Sylvain Laurent, raconter les origines de l'Union rationaliste et surtout cette question qui m'habite, comment concilier l'engagement pour Dreyfus et le principe d'apolitisme posé au départ par les fondateurs de l'UR. N'y a-t-il pas une espèce de contradiction là-dessous ?
Alors oui, Fabienne Bock a la première repéré que beaucoup des fondateurs de l'UR sont liés à l'affaire Dreyfus et à l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. Et ce qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre l'histoire des mouvements rationalistes et de l'UR, c'est que l'affaire Dreyfus, ça se passe entre 1894 et 1906. Mais que la création de l'Union rationaliste, cela arrive en 1930. Et entre les deux, il s'est quand même écoulé 24 ans. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Révolution en 1917 en Russie, le Congrès de Tours en 1920, avec la création du Parti communiste français. Et ces évolutions pouvaient potentiellement diviser ce petit groupe, justement, issu de l'affaire Dreyfus. Un petit groupe de savants progressistes qui s'opposent depuis longues années aux franges réactionnaires du monde académique français, notamment les facultés de droit, mais aussi les physiciens plus proches du pôle catholique. Et donc l'orientation que prend le mouvement social dans les années 30 est un peu incertaine. Et c'est à ce moment-là, finalement, dans ce contexte des années 30, où les attaques, notamment du camp conservateur, sont de plus en plus fortes, que le terme de rationaliste et la référence à la science va redevenir à la mode, quelque part. Parce que ce terme de rationaliste va permettre de sublimer dans l'espace intellectuel les divisions politiques que l'on voit poindre, et notamment la division entre socialistes et communistes. Mmh. Ça va permettre, finalement, une forme d'alliance entre différentes sensibilités de savants de gauche, qui considèrent que la science, c'est le progrès, et cela malgré les horreurs de la Première Guerre mondiale. C'est aussi des savants qui considèrent que la science peut aider à résoudre la question sociale. Et en fait, il y a cette idée que, finalement, à travers la science, on va peut-être arriver à dépasser les divisions politiques du moment. Finalement, qu'on soit communiste ou socialiste, c'est pas forcément très grave si la science nous aide à résoudre les famines, à améliorer la santé, tout un tas de problèmes qui sont des problèmes aujourd'hui qui se présentent uniquement sous une forme politique. Ces problèmes, on pourra peut-être les dépasser demain grâce à la science. Donc, en quelque sorte, c'est une forme de front populaire avant la lettre, mais dans l'espace savant. Et c'est ça qui est un peu au fondement de l'UR. Et l'autre chose qu'on peut dire, c'est que par rapport, par exemple, au mouvement de la libre-pensée qui existe bien avant, la particularité du mouvement rationaliste à partir des années 30, c'est que c'est la formulation d'un projet positif aussi qui se fait jour par rapport à certains réflexes anticléricaux. En fait, ils ne sont pas anti, ils sont pour quelque chose. Et ceux, ils sont pour la science en disant que finalement, faire reculer les superstitions ou faire reculer les croyances, ça suppose la construction positive d'un espace autonome qu'est la science. Et de lui-même, si cet espace-là progresse, il fera reculer les religions. Donc il ne sert à rien d'heurter les religions de front. Ce qu'il faut faire, c'est progresser, structurer l'espace scientifique, le faire progresser. Et pour ça, il faut une structure administrative. Et donc on retrouve aussi d'ailleurs le noyau des fondateurs de l'UR, ceux qui vont pousser pour la création du CNRS, une mutuelle des savants, etc. Il y a cette idée que pour que l'idée de raison progresse, il faut que la science ait une administration qui lui soit propre et qui soit au service du progrès.
Justement, cette contradiction qui me semble quand même perdurer entre le principe d'apolitisme et la foi qu'on peut avoir dans la raison a dépassé des contradictions politiques, elle fait parfois que on ne dit rien en 45 sur ce qu'a été le fascisme hitlérien, on ne dit pas grand-chose en 58, voire rien du tout sur le retour de Gaulle, on ne dit rien sur la guerre d'Algérie, on ne dit rien sur mai 68.
Il faut différencier, je pense, c'est la partie des années 30 et la partie d'après-guerre. C'est avant, dans les années 30, l'apolitisme, c'est le sous-produit de quelque chose de très politique, finalement, qui est cette idée que la science est au service du progrès. Après la Seconde Guerre mondiale, alors la référence critique au fascisme, quand même, elle est présente dès 1933. Enfin, l'UR est une des premières associations qui dénonce le fait qu'on boule des livres, que les chercheurs juifs soient persécutés en Allemagne. Donc il y a quand même cette vigilance qui est là. Et après-guerre, en vérité, ça va tellement de soi que cette question du rapport au nazisme, elle est plus exprimée. Et très rapidement, ce qui va se passer, c'est que l'UR, par contre, va être rattrapée par le contexte de la guerre froide. Et donc, dans ce contexte, la neutralité politique, elle existe toujours, mais elle a un peu servi, enfin, elle a un peu changé de sens. C'est-à-dire, avant-guerre, on se dit apolitique pour taire les divisions entre socialistes et communistes. Après-guerre, et pendant la guerre froide, on va se dire apolitique parce que finalement, l'UR sert de passerelle entre le monde qui a basculé à l'Est et les vieux réseaux de la Ligue des droits de l'homme et des humanistes d'avant-guerre qui, eux, sont restés sur des lignes de type SFIO ou autre et qui sont dans le monde non communiste. Et donc là, l'UR va changer un peu de fonction. Elle devient une espèce de téléphone rouge, entre guillemets, entre les deux pôles et les deux camps du mouvement social en France. Et là, l'apolitisme, il sert principalement à garder cette connexion.
L'intérêt, justement, de votre livre, Sylvain Laurent, c'est que vous proposez toujours une analyse des rapports mouvants entre science et société. Vous essayez d'analyser de très près les différents régimes d'historicité et comme vous le rappelez ici, c'est en découpant en moments différents l'histoire de l'Union rationaliste, c'est en réfléchissant de près sur le rapport à la technologie, aux groupes de pression, au monde industriel, privé ou public, que vous essayez de mener l'analyse. Je pense, par exemple, à la question de l'Union rationaliste et du nucléaire, ou à la question de l'écologie, à la question du climat, du principe de précaution.
Alors, sans être totalement déterministe, ce qu'on voit bien, c'est que la position d'une association comme l'Union rationaliste, sur les questions notamment d'intérêt industriel ou de groupe d'oppression, elle va bouger dans le temps. Et elle bouge, mais c'est assez logique, en fonction aussi de la sociologie de ses militants. C'est-à-dire en fonction du fait que, à un moment donné, au sein de l'Union rationaliste, ils sont plutôt des physiciens, et plutôt des physiciens communistes qui sont dominants, ou à d'autres moments, des ingénieurs qui sont peut-être un peu moins politisés, au sens où ils n'ont pas leur carte, et dans un parti politique, ils sont plutôt dans un investissement de type de défense de la science, de médiation scientifique, le rapport à la question industrielle ne va pas être tout à fait le même. Et je pense qu'on aurait intérêt à intégrer ce que permet de faire la sociologie ou l'histoire, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport aux positions du moment, en montrant qu'il y a des liens entre des cultures professionnelles, des cultures savantes notamment, et des prises de position au nom de la science dans l'espace public. Je pense qu'on aurait intérêt à utiliser la sociologie et l'histoire, y compris quand on est un militant rationaliste, pour penser et prendre de la distance par rapport à ce que Laurent Loison appelle le dogmatisme de la science du présent, c'est-à-dire non pas tomber dans un relativisme, mais se dire que il y a eu de tout temps des gens qui intervenaient dans l'espace public au nom de la vérité scientifique et que à certains moments, mais au nom de ça, ils ont aussi défendu des choses qui ont été après critiquées scientifiquement, qui se sont avérées fausses, etc. Et donc je pense que l'intérêt des sciences sociales, c'est d'avoir ce détour un peu réflexif, de prendre un peu du recul par rapport à ce qu'on pense être la vérité scientifique, quoi. Est-ce qu'être militant rationaliste, c'est asséner la vérité scientifique du moment qu'on pense être la bonne, ou est-ce que c'est aussi faire exister dans l'espace public l'idée que la science est un espace de débat, c'est un espace où les gens critiquent, où des énoncés, certains sont vérifiés, ont été vérifiés 1000 fois et ne sont plus discutés, et donc ils constituent, on va dire, un noyau de vérité indiscutable, mais que par contre, c'est un espace continu de critique sur lequel il y a des controverses, et que quand dans certains sujets, par exemple, donc ça peut être le nucléaire, mais ça peut être aussi aujourd'hui plus récemment le glyphosate ou d'autres choses comme ça. Mm-hmm. Si les savants eux-mêmes n'ont pas atteint des points de consensus parfaitement homogènes, alors être militant rationaliste, c'est aussi avoir cette prudence lorsqu'on en intervient dans l'espace public.
Ouais. Vous parlez très bien de la force de l'Union rationaliste et de ce que vous appelez dans votre livre également son déclin continu. Alors, Sylvain Laurent, à quoi attribuez-vous la force de l'Union rationaliste et que faire pour contrecarrer ce déclin ?
Alors, l'Union rationaliste connaît des débuts assez triomphants dans les années 30, car comme je le précise dans le livre, l'association affiche assez rapidement 3000 adhérents, ce qui est d'ailleurs bien plus que le nombre de savants qui sont fonctionnarisés dans le supérieur à l'époque. Et le pic d'adhésion il se situe probablement dans les années 60, aux alentours de 6000 adhérents, avec une large part de militants qui sont alors plutôt des militants aussi communistes français. Donc on a sa carte à l'Union rationaliste, comme on a sa carte aussi au parti. Mais alors depuis, effectivement, les années 70, on a une association qui connaît un déclin continu. Alors là, quand on lit les archives, on le voit, à chaque fois, il y a des plans de relance, il y a des renouveaux, mais ça ne marche pas. Alors, on peut analyser ce déclin de deux façons. Alors, une façon optimiste, ce serait de dire que finalement, si l'UR est en déclin, c'est parce qu'une partie de la bataille a été gagnée, c'est-à-dire la bataille dont qu'on évoquait tout à l'heure. L'UR militait pour la construction d'un espace scientifique autonome et il a fini par se structurer. Il existe un CNRS, des instituts de recherche. Chaque université dispose de services de communication qui vont valoriser auprès du grand public les résultats scientifiques, faire de la médiation scientifique. Il y a tout un tas d'initiatives qui existent dans le monde académique ou même dans le secondaire. Il y a des lieux, le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences. En fait, finalement, le projet qui est porté au départ de l'UR, il a trouvé...
Jean Perrin, notamment.
Voilà, il a pris corps dans des institutions, dans des lieux. Et tous ces lieux, finalement, peuvent être lus comme l'institutionnalisation de cet espoir de médiation scientifique qui était au lancement de l'UR. Après, il y a une façon un peu plus pessimiste, on va dire, de voir les choses, ce qui serait de considérer que l'UR était aussi un moyen pour les savants de s'enraciner dans le mouvement social ou d'avoir une passerelle vers le mouvement social. Les savants avaient une connexion à travers l'UR vers l'enseignement libre, le mouvement laïque, le mouvement syndical, socialiste et communiste, et que là, pour ces savants, l'idée de progrès scientifique était aussi un vecteur d'émancipation sociale. Et alors, les fondateurs de l'UR, ils défendaient la médiation scientifique, mais ils défendaient aussi explicitement l'idée que l'émancipation sociale ne pourrait pas se faire sans les perspectives extraordinaires qu'offre la science, et aussi le rapport contrôlé à la vérité qu'offre la science. Donc là, sur ce point-là, c'est vrai que là, pour le coup, il y a un déclin genre de l'UR qui est aussi un symptomatique d'une coupure, je pense, des savants avec le reste de la société.
Les bases sociales.
Et je pense qu'il manque quelque chose dans l'espace actuel qui est de l'ordre... Donc il y a des syndicats qui défendent les savants, alors dont le nombre d'adhérents n'est pas non plus extraordinaire, mais il y a un mouvement syndical. Mais il manque ce discours, en fait, d'un engagement des savants aux côtés du reste du mouvement social. Et ça, ce déclin-là, il est continu au moins depuis les années 70.
Mais ce rôle de l'Union rationaliste comme ferment ou lien entre les scientifiques et le rapport à la vérité et les citoyens, il me semble toujours d'actualité. C'est pourquoi j'invite les auditeurs de France Culture à nous rejoindre à l'Union rationaliste. Je renvoie à ce beau livre de Sylvain Laurent, « Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France, 1930-2005 ». Je rappelle le numéro 200 de Raison Présente. Raison Présente à 50 ans, aventure et combat de la raison. Je remercie Bernard Laniel et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission. Et je vous dis au mois prochain